Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur la restauration. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à prier, à remercier le Seigneur et à remettre le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous fasse du bien et que nous puissions comprendre sa parole. Prions. Père éternel, nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour ce message, la restauration, car nous croyons que tu as commencé un processus de restauration dans nos vies, dans tous les domaines, Père. Nous voulons t'entendre, toi et toi seul. Je veux disparaître, afin de te laisser la place à toi et à toi seul. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La restauration. Je vous invite à lire 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La restauration. Nous avons défini la restauration comme l'action consistant à restaurer, c'est-à-dire remettre en place un état précédent qui a été altéré, qui a été détruit, qui a été gâté, qui a été endommagé. Donc, la restauration, c'est rebâtir quelque chose qui a été détruit. La restauration, c'est reconstruire quelque chose qui a été endommagé. Remettre à neuf quelque chose qui a été gâté, quelque chose qui a été endommagé par l'usage peut-être, par des attaques de l'ennemi. Bref, la restauration est possible. Je suis venu dire à un homme et à une femme qui m'écoutent en ce moment que la restauration est possible dans votre vie. Lorsque Dieu parle à Salomon dans 2 Chroniques 7, il dit, si mon peuple, il ne parle pas des inconvertis. Parce qu'on peut se dire que la restauration, c'est seulement pour les inconvertis. Il ne s'agit pas là des inconvertis. Il s'agit de ceux et de celles qui connaissent le nom de Dieu. Je ne prétends pas que la restauration n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Elle est aussi pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. La condition, c'est de revenir à Christ. Mais là, Dieu parle d'hommes et de femmes qui sont censés marcher avec Dieu. On va parler des rétrogrades, de ces hommes et de ces femmes qui, pour une raison ou une autre, se sont éloignés de Jésus-Christ. Ils se sont laissés distraire par l'ennemi. Et l'ennemi leur a volé, entre guillemets, des bénédictions. L'ennemi leur a volé peut-être leur mariage, leurs études, leurs enfants, leur carrière, leur entreprise, leur ministère, leur spiritualité. Ils ont tout perdu parce qu'ils se sont écartés de l'ennemi, parce qu'ils se sont écartés de Jésus-Christ. Et Dieu dit, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je résume le reste des phrases, je vais les restaurer. Mon frère, ma sœur, la restauration est biblique et elle est pour vous. Si vous avez perdu quelque chose parce que vous avez abandonné Christ, la restauration est possible. Je ne sais pas dans quel domaine. Il n'est nullement question de religion. Il n'est nullement question d'appartenir à une église. Mais il est question de remettre en marche une relation avec Jésus-Christ. Dieu nous dit la première chose qu'il demande, c'est de revenir à lui. C'est s'humilier, c'est prier, chercher sa face. En d'autres termes, c'est de revenir dans une intimité, dans une relation de père à Fils au travers de Jésus-Christ. Revenir à Jésus est la première étape d'une vie de restauration. Il est impossible que Dieu restaure quelqu'un qui ne veut pas de Jésus-Christ. Dieu a tout fait au travers de Jésus. Je vous invite un peu à lire dans le livre de Jean, le premier chapitre, Jean 1, verset 3. On peut commencer par le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par la parole de Dieu, et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Dieu fait toutes choses au travers de sa parole, et il ne fait rien en dehors de sa parole. Dieu parle, et nous savons très bien que le verset, le chapitre 1 de Jean, de 1 à 3, on parle particulièrement de la personne de Jésus-Christ. Comme pour dire, aucune restauration n'est possible tant que Dieu n'est pas réconcilié avec sa créature au travers de Jésus-Christ. Rien ne peut se faire sans Jésus-Christ. Or, vous allez peut-être me dire, mais ça fait des années que j'ai perdu telle chose, telle autre chose. Oui, Dieu peut vous donner plus que ce que vous avez perdu. C'est une restauration. C'est une restauration. Lisons un peu le livre de Job, son dernier chapitre. Le livre de Job, son dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 42, verset 10. Revenons dans le contexte. Job a perdu ses enfants, a perdu ses biens. Mais qu'est-ce qu'il est dit à Job 42, verset 10? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Dieu a restauré Job. Et il lui a donné même plus qu'il avait avant qu'il perde ses biens, avant qu'il soit attaqué par l'ennemi. La restauration est biblique. Vous n'êtes en rien différent de Job. Dieu n'aime pas plus Job que vous. Nous l'avons vu. Dans Romains 2, verset 11, Dieu nous dit qu'il ne fait exception de personne. Relisons-le encore pour être plus précis. Romains 2, verset 12. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu n'aime pas plus X que Y. Dieu n'aime pas plus les blancs que les noirs que les japonais, les asiatiques que les sud-américains. Dieu nous aime tous de la même manière. Il nous fait grâce tous de la même manière en Jésus-Christ. Donc, c'est une bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. La restauration est possible. Première condition, il faut venir à Jésus-Christ. Car en dehors de Jésus-Christ, Dieu ne peut rien faire. Un auteur a dit que Dieu nous a créés une première fois en Adam. Il nous recrée en Jésus-Christ. On va dire ceci, il nous crée une première fois en Adam. Il nous crée une deuxième fois en Jésus-Christ. Il restaure l'homme en Jésus-Christ. Il n'y a pas de restauration possible en dehors de Jésus-Christ. Revenons à notre texte de 2 Chroniques 7, verset 14. La deuxième condition que Dieu donne dans ce verset, il dit, relisons le verset, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Ça, c'est la deuxième condition. Se détourner du péché. Il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. » Mais il faut aussi que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Ça veut dire le maître de tout. Si Jésus-Christ n'est Seigneur que dans ma vie, que pour une partie des choses, ça veut dire qu'il n'est pas seigneur du tout. Un seigneur est celui qui a le droit de vie ou de mort sur une certaine étendue. Alors, si j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon seigneur, ça veut dire que je veux que Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie. Dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine sexuel de ma vie, dans mes pensées, à mon travail, dans mon entreprise, dans mon ministère, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec mes enfants, Jésus-Christ doit régner comme Seigneur. S'il n'est pas Seigneur, alors il sera difficile qu'il soit sauveur. Ça veut dire que je l'accepte aujourd'hui, mais demain je vais le mettre à la porte. Il est plus facile de gagner quelqu'un à Christ que d'en faire un disciple. Pourquoi? Parce que pour donner sa vie à Jésus-Christ, on est touché par le Saint-Esprit, on donne sa vie à Jésus-Christ. Mais la vie de disciple, c'est une vie qui dure toute la vie, j'allais dire. C'est un enseignement. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, à partir de verset 18, Matthieu 28, je voudrais bien relire ça. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez gagner le monde à Christ, mais ne vous limitez pas seulement à annoncer l'évangile, à gagner des âmes à Christ, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là où beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas toujours d'accord avec Jésus. Parce qu'il faut changer de mentalité. Dans le processus de restauration, il est important de rejeter le mal. Rappelez-vous, restaurer, c'est remettre en place un état précédent qui a été détruit. Ça veut dire qu'il y a un processus pour rebâtir. On met une première pierre, on met une deuxième pierre. Il y a des efforts à fournir. Je ne suis pas en train de prêcher le salut par les œuvres. Non. Nous sommes sauvés par la foi. Une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes sauvés et il n'y a rien d'autre à faire. Mais pour restaurer votre vie, il faut faire l'effort maintenant de mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie de tous les jours. En fait, ça va être la confirmation de votre décision à l'égard de Christ. Vous avez dit, je veux Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, je vais confirmer par mes actes ma décision envers Jésus-Christ. S'il se détourne de ses mauvaises voies, il n'est pas dit d'une partie de ses mauvaises voies. Il n'est pas dit du un tiers, du trois quarts, de toutes ses mauvaises voies. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Mais les œuvres confirment notre foi en Jésus-Christ. Jacques 1, verset 22. L'apôtre Jacques, Jacques 1, verset 22, dit ceci. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique les commandements, les enseignements de Jésus-Christ dans votre vie. Et ne vous contentez pas simplement de l'écouter, de dire « Ah, mais c'est bien, c'est merveilleux. » D'autres écoutent et ne veulent pas mettre en pratique. La non-pratique, le manque de pratique dans la vie chrétienne, la non-pratique des commandements de Dieu, la parole de Dieu dans une vie chrétienne, est égal à une forme de rébellion. Dieu vous dit arrêtez l'impudicité, arrêtez le mensonge, arrêtez le vol, arrêtez l'homosexualité, vous savez ce que Dieu vous dit. Vous savez que c'est la parole de Dieu, mais vous refusez de suivre cet enseignement. Vous refusez de suivre ce commandement. Alors que vous savez que Dieu l'a interdit. Vous vous plaisez dans cette vie de péché. Or, quand on a écrit la Bible, il ne savait pas quel genre de difficultés nous allons rencontrer aujourd'hui. Comment je vais m'en sortir de mes problèmes si je marche selon tout ce que Dieu est en train de me dire? Ça, ce n'est pas mon problème. C'est à Dieu de me défendre. Ce n'est pas à moi de défendre Dieu. Si Dieu me dit ne vole pas, je ne vole pas. Je ne mens pas, je ne mens pas. C'est vrai que personne n'est parfait. Il peut nous arriver de tomber dans le péché. Mais nous ne devons pas nous plaire dans une vie de péché. Nous ne devons pas nous plaire dans une vie de débauche, d'impudicité, de mensonge, d'homosexualité. Nous ne devons pas nous plaire, nous ne devons pas nous vautrer dans ces choses. Ça fait plaisir et cela montre, en parlant d'un exemple, ça fait plaisir quand lorsque quelqu'un m'appelle, quelqu'un m'écrit, m'envoie un email, il me dit, voilà, priez pour moi parce que je ne veux plus de tel péché dans ma vie. C'est une preuve que la personne veut plaire à Dieu. Elle veut plaire à Dieu par ses actes. Quoi qu'elle plaît déjà à Dieu par la foi, mais elle se dit, je ne veux plus de ces choses dans ma vie. Alors que d'autres, ben, ça ne leur pose pas un problème d'aller à l'église et d'avorter, d'aller à l'église et de sortir avec des hommes mariés, avec des femmes mariées. Ça ne leur pose pas un problème de vivre dans le mensonge, de voler dans la caisse de l'État, dans la caisse de l'entreprise, de mentir à sa famille, à ses proches. Ça ne leur pose aucun problème. Mais ils vont à l'église et ils lèvent les mains. C'est cet état-là que Dieu ne veut pas. De tels hommes, de telles femmes qui vivent dans de telles choses, Dieu aura du mal à restaurer leur vie. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Jacques dit, mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas simplement à l'écouter. Mais mettez cela en pratique. Mettez cela en pratique. Psaume 37. Psaume 37, verset 3. Le psaume 37, verset 3. Psaume 37, j'étais au psaume 33. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ayez le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, en d'autres termes, si mon peuple pratique le bien, aujourd'hui, dans le monde, on veut relativiser le bien. On dit, ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour l'autre. Ce qui est bien pour l'autre n'est pas forcément bien pour moi. On ne va pas aller dans ces débats-là. Ce que la Bible appelle bien, c'est ce que Dieu appelle bien. Ce que la Bible appelle mal, c'est ce que Dieu appelle mal. Si Dieu condamne quelque chose, ne le pratiquez pas. Si Dieu désapprouve une pratique, ne vous plaisez pas dans ces choses-là. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces choses, priez et criez vers Dieu. Il a la puissance, l'autorité et le désir de délivrer les hommes du mal. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose alors qu'il sait que nous sommes dans l'incapacité. Bien sûr que nous sommes dans l'incapacité de le faire par nos propres forces, mais il nous a donné le Saint-Esprit, son Esprit, qui est Dieu, pour nous aider à réussir dans notre marche chrétienne de tous les jours. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi en l'Éternel, ça veut dire ne te confie pas dans ton argent, dans ton intelligence. Vous avez peut-être des problèmes et vous, à vos yeux, la seule solution, c'est de transgresser la parole de Dieu. Vous n'avez pas d'autre solution que de transgresser la parole de Dieu. C'est l'occasion de dire, Seigneur, je préfère mourir en respectant ta parole. Je préfère perdre mon contrat en respectant ta parole. Je préfère perdre ma relation avec tel ami, perdre tel contrat, perdre tel marché, perdre telle entreprise, perdre telle amitié, ou peut-être même perdre ma relation amoureuse avec mon fiancé, ma fiancée, parce que je veux suivre ta parole, parce que je veux me confier en toi, parce que je veux pratiquer le bien. Vous n'allez jamais perdre. Au contraire, vous allez gagner. Vous allez sortir plus fort et vous allez vous rendre compte que Dieu va vous donner même plus que ce que, à vos yeux, vous avez perdu. Revoyons l'histoire de Job. Revoyons l'histoire de Job. Qu'est-ce que sa femme dit à Job? Maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce qu'il dit? Nous recevons du bien de Dieu. Pourquoi est-ce que nous n'accepterions pas certaines épreuves de Dieu? Et il a béni l'Éternel et il n'a péché en rien du tout. Sa persévérance à marcher avec Dieu, à faire le bien, à se confier en Dieu, à se détourner du mal, a fait qu'à la fin, il a reçu le double de tout ce que le diable lui avait pris, de tout ce qu'il avait perdu, parce qu'il s'est confié en Dieu. Mon frère, ma sœur, la restauration est possible dans votre vie. La première condition, c'est qu'il faut venir à Jésus-Christ. La deuxième condition que nous sommes en train de voir, c'est qu'il faut pratiquer le bien dans votre vie. Le bien, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu approuve dans la Bible. Si Dieu refuse le péché, nous devons refuser le péché. Même si on va nous détester, même si vous étiez même si vous êtes une deuxième femme, une troisième femme d'un homme X, Y, c'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu ne vous abandonnera pas. Vous allez peut-être passer par quelques épreuves difficiles, c'est vrai. Vous serez peut-être rejeté par votre famille, c'est vrai. Mais vous ne serez pas abandonné de Dieu. Et à la fin de votre vie, vous pourrez dire qu'il est bon de servir Dieu parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Peut-être même c'est votre nation qui va vous rejeter. Peut-être même c'est votre communauté qui va vous rejeter. Ce n'est pas grave. Vous allez pleurer, oui. Vous allez pleurer, je ne vous le cache pas. Traverser le désert, ce n'est pas quelque chose de facile. Être rejeté par sa famille, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ça fait mal. Vous allez pleurer. Mais vous allez voir que Dieu ne va jamais vous abandonner. Est-ce que Dieu a abandonné Job? Non. Est-ce que Dieu a abandonné David? Non. Non. Dieu n'abandonne pas ceux et celles qui se confient en lui. Je voudrais vous inviter à lire 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. En d'autres termes, Jean nous parle de mettre en pratique la parole de Dieu, l'amour de Dieu qui est dans nos vies pour ceux et celles que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. La justice, ceux qui marchent dans la vérité. Il ne suffit pas seulement de crier haut et fort, je suis chrétien, j'aime Jésus, patati et patata. Mais nos œuvres doivent prouver que nous aimons Dieu et que nous aimons nos frères et sœurs. Ça serait contradictoire de voir quelqu'un avec une Bible dans la main, sous les aisselles, parlant de Jésus à gauche et à droite comme je suis en train de faire, mais vivant dans la haine. Vivant dans le désordre, vivant dans... Personne n'est parfait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Personne n'est parfait. Mais on parle de ceux et de celles qui prennent plaisir à vivre dans le désordre et dans le péché. Ceux et celles qui prennent plaisir à être en rébellion, mais ayant des versets bibliques dans la bouche, ayant la parole de Dieu dans la bouche, la Bible dans la bouche, prétendant servir Dieu... Mais leurs actes prouvent le contraire. C'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. La restauration est possible. 1. Jésus-Christ comme sauveur. 2. Jésus-Christ comme Seigneur. Il doit diriger notre vie de tous les jours. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, mon frère, ma sœur. Au moment où je suis en train de finir ce message du jour, je voudrais vous inviter à vous observer. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu pour vous réveiller. Si Jésus-Christ est sauveur de votre vie, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie? Celui qui dirige votre vie, celui qui décide de tout ce qui doit être fait dans votre vie? Et si oui, est-ce que vous mettez en pratique tout ce qu'il vous demande de faire? Si c'est non, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de demander pardon à Jésus, de demander pardon à Dieu et de prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ dans votre vie de tous les jours. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. Je te demande pardon, parce que Jésus-Christ est mon Sauveur, mais pas mon Seigneur. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur comme celui qui a droit de vie et de mort sur moi. Seigneur comme celui qui a droit de décider dans tous les domaines de ma vie. Et je prends l'engagement de lui obéir tous les jours et dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton pardon, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton message. Je crois et je confesse que maintenant, je prends un nouveau départ avec Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, vous prenez un nouveau départ avec Jésus-Christ maintenant. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la restauration. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.